1 Samuel chapitre 1 versets 20 à 28, au nom de Jésus. Elkana s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Par la suite, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Mais cette fois, Anne n'alla pas avec son mari. Voici ce qu'elle lui avait expliqué. J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo, je le présenterai devant le Seigneur. Et il restera là pour toujours. Elkana avait répondu, c'est bien, puisque tu le juges bon, reste ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit sevré. Que le Seigneur tienne sa promesse. Anne était donc restée à Rama pour allaiter son fils. Lorsqu'elle l'eut sevré, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Élie. Anne dit à Élie, te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur? Aussi vrai que tu es venu, tu es vivant, c'était moi. Voici l'enfant que je demandais dans ma prière, le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. Et toute la famille se prosterna devant le Seigneur. Amen. Continuons toujours notre série sur la thématique de la naissance, si vous avez suivi depuis Noël jusqu'aujourd'hui. Mardi, nous avions parlé de la nativité ainsi que de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, le texte qui a été choisi par le lectionnaire est encore sur une naissance que je mettrai entre guillemets miraculeuse, celle de Samuel, le fils de Anne. Maintenant, le côté miraculeux pourrait être débattu. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Avec l'époque où on vit aujourd'hui, tout est possible avec la science. Par les généticiens qui peuvent dire non, mais c'est pas si miraculeux que ça. Ça peut arriver. Donc, on pourrait même apporter des explications et dire que ce n'est pas si miraculeux que cela, puisque l'avancée de la science d'aujourd'hui peut tout faire. Il est possible de faire naître un enfant avec plusieurs alternatives, même avec un âge avancé. Mais il est vrai qu'à l'époque de Samuel, il faut le dire, la science n'était pas encore si évoluée qu'aujourd'hui. Donc il faut se mettre dans le contexte. Mais peu importe, cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle n'avait pas subi de traitement scientifique pour en avoir. Alors le résultat, qu'on le veuille ou non, est considéré comme miraculeux, puisqu'il n'y avait rien qu'elle avait subi. Alors pour mieux comprendre le texte, il nous faut faire un petit rappel de la vie de cette femme d'abord. Il faut la connaître. Anne, cette femme qui a tant souffert. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana, qui avait deux épouses, Pénina, la deuxième, et Anne, la première épouse. Pénina, cette dernière, avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alors sa rivale, Pénina, chaque année, la contrariait parce qu'elle était stérile. Et Anne était la préférée d'Elkana malgré sa stérilité. Et cela a duré des années, cette souffrance. Le fait de monter au temple pour apporter des sacrifices était devenu un sacrifice pour Anne de voir sa rivale avec ses enfants prosternés devant l'Éternel et elle qui n'avait aucun enfant. Chaque année, quand elle allait monter à la maison du Seigneur avec son époux, sa rivale et leurs enfants, pour elle, c'était vraiment une torture. Elle pleurait, elle ne mangeait plus, elle ne faisait que prier en murmure silencieuse. On ne voyait que ses lèvres bouger, tellement elle souffrait. Elle n'avait plus même la force de crier, de prier à haute voix. Et un jour, en la voyant ainsi, le prêtre Élie croyait qu'elle était ivre. Ivre de bon matin, avec son air triste. Et il croyait qu'elle était en train de parler toute seule, comme une personne qui a consommé excessivement de l'alcool. Elle qui, déjà dans son malheur, elle reçoit encore un blâme de la part du prêtre. Quand resteras-tu ivre? Va curer ton vin. Au lieu d'être consolée, elle reçoit encore des reproches. Mais quand elle a expliqué son cas, c'est là que le prêtre Élie lui a dit « Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Alors elle est rentrée chez elle, et l'année d'après, juste l'année d'après, elle fut tombée enceinte. Voilà l'histoire. Dans cette histoire, nous pouvons tous constater que cet enfant Samuel, qui est le prophète Samuel, celui qui a oint David, cet enfant était tant attendu, tant espéré. Anne l'a eu dans la douleur et dans toutes les larmes de son corps. Mais voilà le drame. Elle doit laisser cet enfant qu'elle a tant demandé au Seigneur et le confier au prêtre Élie pour qu'il puisse le former et devenir un nazirite, c'est-à-dire quelqu'un qui est voué pour le service du Seigneur dans le sanctuaire. Vous imaginez la dureté de cette décision. Elle a tout fait pour avoir cet enfant. Elle a lutté en prière. Et elle n'a même pas le droit de vivre avec son enfant. Juste un an, elle doit se séparer de son fils. La question qui se pose, est-ce que vous pouvez imaginer un peu le cœur de cette maman qui doit se débarrasser de son enfant? Elle l'a eu juste pour une année, après la première année de sevrage. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi elle fait cela? Mais c'est intolérable pour un comportement d'une maman. Ça ne se fait pas. Oui, c'est vrai. Mais avant que nous disions cela, je peux vous le dire, ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'elle l'a fait. Mais elle l'a fait par dévotion. D'où le thème de notre méditation, une dévotion totale. Et là, par définition, une dévotion, c'est vraiment un dévouement, une pratique, on va dire même liturgique, régulière, parce qu'elle était tout le temps régulière au temple pour prier, pour amener ses sacrifices devant le Seigneur. Exprimer un dévouement, être à la disposition au service de Dieu. Donc c'est une dévotion au service de, allant jusqu'à la servilité. Regardez cette femme. Sa dévotion dans la vie de prière était sans faille, chaque année. Même si les gens se moquaient d'elle, elle était toujours présente au temple. Elle était toujours au même endroit. Elle priait, elle pleurait. Personne ne l'appréciait, mais elle était sans faille. Voilà la dévotion. Comme si rien ne pouvait l'atteindre, même au plus profond de son malheur. Et là, la dévotion est en lien avec une vie de prière intense, régulière, et je souligne le mot régularité. Personne ne l'a obligé, ni ne l'a imposé de le faire, mais c'est elle qui s'est fixée cette dévotion spirituelle, personnelle. Et une fois qu'elle a eu ce qu'elle demandait au Seigneur, cette dévotion qu'elle avait au tout début reste intacte. Elle va encore aller au sanctuaire pour apporter l'enfant et le confier au prêtre pour servir le peuple d'Israël. Il se peut que si nous étions à sa place, une fois que nous recevions ce que nous demandions, notre dévotion commence à baisser. Mais elle, elle tient bon. Elle revient et ramène l'enfant. Elle avait fait un vœu qu'elle donnerait son fils pour servir Dieu si l'Éternel lui permettrait d'en avoir. Je tiens à souligner d'abord que Dieu ne nous demande pas à faire des vœux. Ce que Anne avait fait, c'est une forme ou bien une manifestation de dévouement allant jusqu'à déposséder de son fils. Et donc là, nous pouvons bien voir une vie pleine de dévotion au Seigneur. Ce n'est pas juste une vie de prière avec toutes les ferveurs du monde, mais avec un aboutissement dans des actes. Elle a prié, elle a reçu, et ensuite elle a donné à la disposition de tout le monde le meilleur d'elle-même, son fils unique. Il y a cependant une mise en garde, chers frères et sœurs en Christ. Il existe aussi de fausses dévotions. Et c'est ce qu'on appelle, comme je l'ai dit dans la liturgie tout à l'heure, bigoterie. Un attachement aux détails et non à l'essentiel. C'est du pharisaïsme. Et rappelons-nous de l'histoire de la femme samaritaine qui débattait avec Jésus. Pour elle, le plus important, c'était l'endroit, sur l'endroit où il fallait aller pour prier. Et là, Jésus l'a rectifié. Et l'a mis sur les bonnes bases. Voilà, mais le moment vient, dit le Seigneur. Il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Pour cette femme samaritaine, elle était tombée dans le piège des détails sur l'endroit à Garizim ou à Jérusalem. C'est un peu comme si nous discutons, mais quelle forme de prière qui est efficace? Est-ce qu'il faut s'agenouiller? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Est-ce qu'il faut lever les mains vers le ciel? Est-ce qu'il faut se fermer dans une chambre? Est-ce qu'il faut ceci et cela? On cherche des menus. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'agit pas en fonction de nos manières. C'est le fait d'être entré en esprit, en intimité avec Dieu. Voilà la vraie vie de prière. La leçon que Anne nous laisse dans cette histoire, c'est le fait qu'elle était consciente que même ce fils qu'elle a tant aimé ne l'appartenait pas. Elle n'était que la tutrice légale, mais pas la mère. Le moment venu où le Seigneur avait besoin de l'enfant, non pas pour Dieu, non, Dieu n'a besoin de rien, il est Dieu, il est parfait, mais pour le bien de son peuple, pour Israël, il était devenu le juge après. En même temps, il était prêtre, il était prophète, il était le juge, il dirigeait le peuple d'Israël. Et c'est lui qui a préparé le royaume de David. Vous voyez le ministère que ce petit enfant avait reçu de Dieu. Heureusement que Anne a laissé cet enfant, sinon Israël n'aurait pas eu David. Et s'il n'y avait pas David, vous connaissez la suite, l'histoire d'Israël. Vous voyez le sacrifice que cette femme a fait, apporter du bien à toutes les générations, et même nous aujourd'hui. Nous venons de fêter Noël, la naissance de Jésus. Et vous allez voir, à partir de maintenant, nous verrons dans les évangiles, dans les lectionnaires, Dieu qui prépare le cœur de Marie de ce qui va aussi lui arriver comme Anne. Elle doit se débarrasser de ce fils unique. Elle savait aussi qu'un jour, ce fils qu'elle aime tant va le quitter pour servir le peuple de Dieu. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il est dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Et la raison d'être de la venue de Jésus, c'est servir. Jésus avait une vie de prière intense, c'est vrai. Il allait seul parfois dans le désert pour prier. Mais pas juste pour méditer, pour avoir un moment de méditation et pour avoir une vie méditative, mais pour se préparer à ce qu'il attendait. Il savait le jour J, mon heure est arrivée. L'heure qui est annoncée ici, c'est le moment où il allait mourir. Et c'est ça la dévotion, service, allant même jusqu'à donner sa vie. Et j'ai une dernière question à vous poser. Jusqu'où va ta vie de prière? Jusqu'où va ta dévotion pour le Seigneur? Jusqu'où? Est-ce que cela, ça s'arrête juste dans ta chambre? Tu pleures, tu pries, tu t'agenouilles, tu fais tout. Mais parfois, ça s'arrête jusque-là. Peut-être que tu pries des heures dans ta chambre. C'est très bien, c'est parfait. Mais quelle serait la finalité de cette dévotion de prière? Prenons exemple sur cette femme. Elle a une vie de prière, une régularité de vie de prière, mais aussi et surtout, elle a traduit sa prière en acte de dévotion en donnant son fils, le plus cher à ses yeux, pour les autres, pour le peuple d'Israël. Alors, pour résumer tout ce qui a été dit, je reprends les mots de Paul. Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Amen.